Tov, alors comment on va, Bezrat Hashem, ce soir, demain, commencer ce qui s'appelle Ben HaMetzarim. Demain matin, hein, on doit en effet jeûner le 17 Tammuz. Alors en Israël, c'est moins long qu'en France, ce jeûne. Tov, alors on commence une période de 3 semaines, du 17 Tammuz jusqu'au 9 Av. Alors en général, on n'aime pas trop cette période. Pourquoi? Parce qu'en effet, bon, il faut jeûner 2 jours, 17 Tammuz et 9 Av. Et c'est une période plutôt, n'est-ce pas, de deuil dans laquelle on se rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans, que le Beth Mikdash a été détruit. Et certaines choses sont interdites. Donc en général, on n'apprécie pas tellement cette période. Mais réellement, concrètement, il faut savoir que c'est une période qui est très spéciale, très propice. Une période dans laquelle on peut arriver à une certaine perfection de Am Israël dans sa totalité et de chaque personne. Alors on va expliquer. Alors tout d'abord, cette période-là, elle comprend 22 jours. 22 jours, ça nous fait 528 heures au total. 528, c'est la gematria de Maftéar. Maftéar, c'est une clé. C'est la valeur numérique d'une clé. Pourquoi? Parce qu'en effet, cette période, c'est la clé, en fait, la clé de la réussite. C'est la clé de la Géoula. On peut réaliser la Géoula grâce à ces 528 heures. À part ça, c'est écrit que ces 22 jours, eh bien, ils sont à la base et la racine des 22 journées qui sont entre Rosh Hashanah et jusqu'à Simchat Torah. On sait bien, n'est-ce pas, que l'année débute de Rosh Hashanah jusqu'à Simchat Torah. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de bâtir la structure spirituelle de Am Israël du début de l'année pendant 22 jours, depuis Rosh Hashanah, ensuite Kippour, Sukkot, Simchat Torah. Mais en fait, ça démarre maintenant. Ça démarre avec le 17 Tammuz. On va expliquer pourquoi. Un verset nous dit dans Echa, Kol rotfeha issiguha ben hametzarim. C'est-à-dire que, eh bien, le prophète relate que ceux qui poursuivaient les Bnei Israël, Kol rotfeha, ceux qui les poursuivaient, issiguha ben hametzarim, eh bien, ils ont pu, n'est-ce pas, les attraper. Ils ont pu leur mettre la main dessus pendant cette période qui s'appelle Ben Hametzarim, c'est les 3 semaines. Alors cependant, il y a un pérouche qui nous dit, Al Derech Hadrouche, que ça veut dire Kol Rodef Ka. Rodfea, n'est-ce pas, on écrit Rodef Ka, Rodef Utke. C'est-à-dire que tout celui, n'est-ce pas, qui va rechercher d'accéder au nom d'Hachem, il pourra y arriver pendant cette période de Ben Hametzarim. C'est plus facile de se rapprocher d'Hachem. Pourquoi? Imaginez un roi lorsqu'il est dans son palais royal. Dans le palais royal, eh bien, si on veut prendre rendez-vous, il faut le faire quelques semaines ou quelques mois auparavant. Il faut le faire pas par le secrétaire, etc. Ça passe par le ministre. Bon, ça prend beaucoup de temps. Et même lorsqu'on a ce rendez-vous, eh bien, on a un rendez-vous pour quelques minutes, éventuellement un quart d'heure, une demi-heure. Alors que si le roi, il se trouve en voyage, s'il est en exil, s'il n'est pas, il voyage de ville en ville. Et par hasard, tu le rencontres dans la forêt, dans la route. Eh bien, dans ce cas-là, le roi n'est pas avec son palais royal. Il n'est pas avec des dizaines de ministres qui vont s'occuper de lui. Mais il est avec 3 ou 4 ou 5 personnes. C'est plus facile de lui parler. C'est plus facile, n'est-ce pas, de lui parler, même sans demander de rendez-vous. Ça, c'est le machal. Par aussi, dans cette période-là, eh bien, c'est comme si Hachem est en exil. Parce qu'on sait en effet que le verset Immo Anochi Betsara, c'est-à-dire que lorsque nous on est exilés, lorsque Hachem a détruit le temple, lorsqu'il nous a exilés, eh bien lui aussi, il est parti en exil. Hachem, n'est-ce pas, est sorti de son temple et s'est exilé. La Gemara que Lo Avo Birushalayim Shel Mala Atcheavo Lirushalayim Shel Mata. C'est-à-dire qu'Hachem a dit que on sait qu'il y a un temple. Sur terre, il y a aussi un temple céleste. Et lorsque Hachem a détruit le temple sur terre, il a aussi, n'est-ce pas, il s'est exilé du temple céleste. Et il a juré de ne plus jamais rentrer, pénétrer dans le temple céleste, dans son propre temple, jusqu'à ce qu'il va construire le temple sur terre. Hachem s'exile avec nous. Immo Anochi Betsara. Quand on est en exil, eh bien Hachem, lui aussi, il est exilé. Alors, dans ces 3 semaines-là, lorsqu'on est en train de relater le fait que le temple a été détruit, on est en train, n'est-ce pas, de d'exprimer notre exil depuis 2000 ans, eh bien Hachem, lui aussi, est en exil. Quand il est en exil, c'est plus facile de lui parler. C'est plus facile, n'est-ce pas, de se rapprocher de lui. Donc ces 3 semaines, bien que c'est une période dans laquelle on va relater l'exil, mais cependant, c'est plus facile de se rapprocher d'Hachem. Il est plus proche de nous. Alors, il faut aussi se rendre compte qu'en fait, depuis que le temple a été détruit, le monde a été transformé. Alors, on ne s'en rend pas compte suffisamment. En fait, c'est ça le gros problème. C'est comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui est né dans une caverne. Et il a l'impression qu'il n'y a rien d'autre. Une caverne énorme et géante. Il n'est jamais sorti de là-bas. Il pense que le monde, c'est ça. La vie, c'est cela. Il n'imagine pas, n'est-ce pas, qu'il y a un monde extraordinaire à voir. Lorsque on est, n'est-ce pas, dans une période d'exil, on ne se rend pas compte de ce que était le monde et de ce que peut être le monde lorsque le Beth Amikdash sera encore une fois construit. Alors, ce qu'on va essayer d'expliquer ce soir, qu'est-ce qu'en fait on a perdu et qu'est-ce qu'on peut retrouver par le Beth Amikdash, de façon générale et de façon individuelle. Alors, il faut aussi noter, entre parenthèses, que le Beth Amikdash et la Geoula al-Mashiach est cité dans les Tfilot de nombreuses fois. En effet, rien que dans l'Amida, dans laquelle on a 19 brachot, eh bien on a 6 brachot qui concernent la Geoula et le Mashiach. On a Mechaya Metim, ensuite Goal Israël, Mekabet Hamu Israël, Boner Ushraim, Matzmer Keren Yeshua et Amachazir Shechinat Oletzion. Donc on a au total 18 brachot par jour, 18 sur 100, dans lesquels on parle de la Geoula et du Mashiach. Deuxièmement, si on fait le décompte, on voit que dans la Tfila, on parle de la Geoula plus d'une centaine de fois par jour. C'est-à-dire qu'en fait, on relate cela et on demande cela à Hachem plus d'une centaine de fois. Alors ce qu'il faut en fait, c'est uniquement prêter son attention à cela pour demander la Geoula. Parce que c'est le moment le plus propice de l'année pour qu'en effet Hachem amène le Beth Amikdash. Top. Alors on va à présent essayer d'expliquer qu'est-ce qu'en fait il s'est passé. Et qu'est-ce qu'on peut réaliser avec ce Beth Amikdash. Alors on raconte que il y a une histoire qui s'est passée, elle est ramenée dans Lev Eliyahu, Chelek Gimel, à la fin. Le grand philosophe grec Platon, qui était l'élève de Socrate, le maître d'Aristote, pendant longtemps, de longues années, il avait entendu parler du grand prophète d'Ibn Israël, Yirmiyahu Anavi, Jérémie le prophète. Et il avait une envie ardente de le rencontrer. Pendant des années, il a essayé de le rencontrer. Et en fin de compte, il a réussi. Et lorsqu'il a réussi à le faire, c'était quand? C'était précisément lorsque le Beth Amikdash a été détruit. Et là, n'est-ce pas, Platon voit que Yirmiyahu Anavi est en train de pleurer, de se lamenter sur le Beth Amikdash qui est détruit. Et bon, ils ont discuté. Et ensuite, Platon dit à Yirmiyahu Anavi, j'ai 2 questions à te poser. Toi, n'est-ce pas, tu es un grand homme. Un grand homme, un grand dirigeant spirituel. Tu n'es pas quelqu'un qui se laisse emporter par les sentiments. Alors pourquoi est-ce que tu pleures pour une maison qui est en ruine? C'est une maison, c'est un bâtiment. Même si elle est pleine d'or et d'argent, même si ça vaut des milliards, eh bien c'est que du matériel. Il ne convient pas à un homme si grand que toi de pleurer pour cela. On pleure pour des valeurs morales et spirituelles, pas pour quelque chose de matériel. En effet, c'est une question aussi qui montre la grandeur de Platon, qui lui en effet n'est pas impressionné par le fait qu'une maison qui vaut même des milliards s'écroule. En effet, c'est uniquement les valeurs morales et spirituelles qui doivent impressionner un grand homme. Deuxièmement, lui dit Platon, deuxième question, même s'il y a lieu de pleurer pour cela, c'est du passé. C'est terminé. Comme on dit, on ne pleure pas pour les pots cassés. C'est-à-dire que le passé, il est effacé, il est terminé. À présent, tu dois essayer de réaliser, de bâtir de nouveau à l'avenir. Plutôt que de se lamenter sur le passé, essaye d'organiser l'avenir. Top. Et là, Yirmiyahu Anavi a dit à Platon, il a dit certainement, il y a certaines questions dans le domaine philosophique qui te dérangent. Il dit en effet, j'ai des questions sur lesquelles je n'ai pas de réponse. Alors il dit, viens, on en discute. Et en effet, Platon a posé ses questions à Yirmiyahu Anavi, et ils ont discuté pendant des heures. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, Eh bien, Jérémie le prophète a répondu à toutes les questions de Platon. Jusqu'à ce qu'il écrit là-bas qu'il se demandait est-ce qu'il avait en face de lui un être humain ou alors un malach, un ange. Il était fasciné par sa dimension spirituelle et morale. Et ensuite, Jérémie Hanavi dit à Platon, eh bien, sache que toute ma sagesse, toute ma connaissance, je l'ai obtenue de cette maison qui est en ruine, de ce Beth Amigdash. Pourquoi je pleure? En effet, je ne pleure pas pour les ruines, pour l'or et l'argent qu'il y a ici, je pleure pour ces valeurs morales et spirituelles que j'ai obtenues, qu'on peut obtenir de ce Beth Amigdash et que dorénavant, nous avons perdu. C'est-à-dire qu'en fait, le Beth Amigdash nous donnait, n'est-ce pas, non seulement un lieu de prière, un endroit dans lequel nos fautes étaient pardonnées, mais surtout, n'est-ce pas, la sagesse, la connaissance, l'élévation spirituelle, eh bien, elle passait par ce Beth Amigdash. C'est-à-dire qu'Hachem, il a créé un monde terrestre, mais qui est rattaché au monde céleste, au monde spirituel. Mais cependant, Hachem a voulu que cela passe par un endroit précis, par le Beth Amigdash, plusieurs niveaux jusqu'au Kodesh à Kodashim. Kodesh à Kodashim, dans lequel le Kohen Gadol entrait uniquement à Yom Kippour. Il fallait, n'est-ce pas, qu'en effet, cette élévation, cette dimension spirituelle passe par cela. Et une fois que le temple a été détruit, eh bien, on a perdu non seulement cette demeure, cette maison, mais on a perdu, en fait, ce contact. C'est-à-dire que le contact, il est déjà différent. C'est bien plus difficile d'accéder à une élévation spirituelle, à une sanctification, à une compréhension de la Torah, à une concentration dans la tefila, maintenant qu'on n'a plus ce Beth Amikdash. En effet, toute le shefa, la bracha, la bénédiction, la dimension spirituelle gigantesque qu'avaient nos ancêtres, lorsque le temple existait, eh bien, elle passait précisément par ce canal qui s'appelait le Beth Amikdash. Et maintenant, on a perdu cela. On a perdu cela, et ensuite, n'est-ce pas, on est devenu en exil. On est en exil dans tous les domaines. On va expliquer ce que ça veut dire. Mais avant d'y arriver, ça c'était la réponse à la première question. À la seconde question, lui a dit, mais un avis, eh bien là je ne pourrais pas te répondre parce que tu ne pourras pas comprendre la réponse à cette question. Alors bon, c'est un autre sujet, mais c'est quoi la réponse? Elle est inscrite dans un livre d'Asr Hochmah Moussar de la Simcha Dessel. C'est quoi la réponse? C'est qu'en fait, en effet, on ne pleure pas pour le passé. C'est-à-dire que la question était, même s'il y a eu de pleurer, le passé est terminé, il faut uniquement agir par rapport à l'avenir, pour rebâtir, pour structurer encore une fois l'avenir. Alors en effet, il a raison Platon, on ne pleure pas pour le passé, mais nos larmes, nos lamentations, notre philote sont en train de créer à nouveau le troisième temple. C'est-à-dire que pendant cette période-là, eh bien, on n'est pas en train uniquement de se lamenter de façon désespérée, sans lueur d'espoir, ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Mais au contraire, on est en train de réaliser ce troisième temple. On est en train de le reconstruire par nos larmes, par nos lamentations. Et on doit en effet diriger notre optique de cette façon-là, qu'on est en train de bâtir encore une fois le troisième temple. Mais toi, c'est un autre sujet à part, on revient à l'autre sujet. Ken. Preuve triste. Bon, alors, c'est un long sujet, on va dire un mot là-dessus. Alors, en effet, la tristesse est toujours interdite. Un de mes rabbins disait que même les kinotes à Tisha B'Av, il ne faut pas les faire dans la tristesse. Il faut les faire, il disait entre guillemets, dans la joie. C'est-à-dire quoi dans la joie? C'est-à-dire il faut les faire avec envie, avec ferveur, avec effervescence. Il y a une grande différence entre la tristesse et avoir le corps brisé. Ça se traduit par Atzvut ou alors Chivron Lev, le corps brisé. La Dvar Mikos disait, En yoter shalem milev shavur. Il n'y a pas de plus parfait qu'un cœur brisé. Alors en fait, c'est quoi la différence? La différence, elle est simple. C'est qu'un homme qui est triste, eh bien, son mouvement est un mouvement qui est descendant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui n'a aucune lueur d'espoir à l'avenir. Et en général, il se met constamment à râler, à rouspéter, à réclamer. Parce qu'il est découragé d'espérer de la vie. Quelqu'un qui a le corps brisé, au contraire. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui a une heure d'espoir. Comme quelqu'un qui fait tchouva pour sa averot, à Kippour ou alors dans l'année. Eh bien, sa tchouva, ce n'est pas un désespoir, ce n'est pas une tristesse. Il a le corps brisé à cause de sa averot. Mais quand sa tchouva, elle est pleine d'espoir parce qu'il est, il est conscient qu'il est en train d'effacer le passé, en train d'effacer la verrote, et en train de se rebâtir, de se reconstruire. Il est en train de se structurer une réelle identité juive à présent. Ça, c'est avoir le cœur brisé qui va de pair avec la joie. C'est-à-dire, on peut être, n'est-ce pas, même dans la joie avec le cœur brisé, c'est-à-dire quand on est vraiment désolé, on regrette amèrement la faute qui a été faite, on regrette amèrement que le temple a été détruit, mais on est en train, n'est-ce pas, par nos lamentations, par ce cœur brisé, de le rebâtir encore une fois. Mais en effet, il faut faire attention parce qu'on peut facilement déraper dans la tristesse. La différence essentielle, c'est quoi? C'est est-ce qu'on a une lueur d'espoir ou alors on est désespéré. Et en effet, ça, on doit aussi penser à cela, c'est lorsqu'on va aborder ces trois semaines-là, on doit être plein d'espoir qu'on est en train à nouveau de reconstruire le Beth Amikdash. On revient au premier sujet. Alors, en effet, Yirmiyahou a dit à Platon, c'est que quelle est la raison de lamentation? C'est parce qu'en effet, on est en train de se lamenter qu'on a perdu ce Beth Amikdash par lequel passait la Chokhma, la sagesse, l'élévation spirituelle. Alors en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis que le temple a été détruit? Alors, on sait ce que c'est l'exil. L'exil, c'est quoi? Comme nous étions en exil en Égypte. C'est quoi? Eh bien, c'est l'exil d'un peuple entier dans un pays étranger pendant un certain temps. Bon, on sait ce que ça peut occasionner comme souffrance, comme dérangement, comme manque d'épanouissement pour le peuple en général et qui n'est pas, ça va aussi empêcher ce peuple de s'exprimer, de s'épanouir et de réaliser tout ce qu'il peut réaliser. Top. Maintenant, cet exil, il est aussi vrai dans le domaine personnel et individuel. C'est-à-dire que il peut arriver qu'une personne soit exilée de son pays. Il doit habiter autre part. Il habite dans un pays ou une ville qu'il n'aime pas, qu'il n'apprécie pas, il ne s'arrange pas là-bas. Bon, pour certaines raisons, il doit habiter là-bas. Il est en exil. Et donc, il est dérangé par les conditions qui vont l'entourer. Alors bon, il essaie de s'arranger pour le mieux, avec d'eau et des bas. Bon, comme on connaît tous comment ça se passe. Maintenant, cet exil, il peut être dans d'autres dimensions. Une personne peut-être peut habiter dans la ville préférée du monde entier. Mais cependant, il est exilé par rapport à sa propre famille, par rapport à son travail. C'est-à-dire que des fois, n'est-ce pas, lorsqu'on doit quitter la famille, c'est une forme d'exil. Des fois, on est avec la famille, mais on ne s'arrange pas avec la famille. Il y a des frictions, des différends, des disputes. C'est aussi un exil. Lorsqu'une personne doit travailler, étudie, mais n'est pas épanouie dans son travail, dans son étude, c'est aussi une forme d'exil. Une autre dimension. Mais c'est aussi un exil. Dans n'importe quelles conditions et circonstances qu'une personne n'arrive pas à s'épanouir, à exprimer, à réaliser réellement ce qu'elle est, eh bien, c'est aussi un exil de la personne. Et encore un autre exil qui est peut-être le pire, c'est lorsqu'une personne est en exil avec soi-même. C'est-à-dire quoi? Des fois, une personne peut être dérangée par son propre caractère, par ses défauts, par ses vices qui le dévorent, qui le dérangent. Il est mal dans sa peau. Il n'arrive pas à s'épanouir, à s'exprimer, à dire ce qu'il pense, à réaliser son potentiel. Il sent qu'il a un potentiel qui est inhibé, qui est caché en lui. Il n'arrive pas à le réaliser. Ça, c'est aussi, n'est-ce pas, encore une forme d'exil qui est des fois peut-être le pire. Alors, toutes ces formes d'exil, sachez que tous ces exils-là, eh bien, leur source, leur base, elle dépend du Beth Amikdash. Mais auparavant, on n'en laisse pas, dans la Torah, on nous parle de l'exil premier qui est en Égypte. Alors, la Torah nous dit dans Vaera, lorsqu'Hachem a voulu nous délivrer, eh bien, il y a eu plusieurs phases dans la Géoula. Et seulement, on a quatre phases. Votseti, Veitzalti, Vegalti, Velakarti. Par rapport auxquelles, en effet, on sait bien qu'on prend quatre coupes de vin par rapport à chaque phase de la Géoula. Mais en fait, nos sages expliquent que ces phases de la Géoula correspondent à quoi? Alors tout d'abord, il fallait que Moshe Rabbeinu explique aux Bnei Israël qui sont esclaves. Parce qu'en effet, ces hommes-là étaient esclaves, nés esclaves, et leurs parents et leurs grands-parents étaient aussi nés esclaves. Donc ils n'ont connu que l'esclavage. Lorsqu'une personne ne connaît rien d'autre, eh bien, il a l'impression que c'est le cours normal et ordinaire de la vie. Et donc, c'était très difficile de leur expliquer qu'il y a une notion qui s'appelle être un homme libre, qu'on va sortir d'Égypte et qu'on va réaliser une autre vie, qu'on va se réaliser. Il fallait, première phase, leur faire prendre conscience que vous êtes des esclaves. Et c'était une tâche difficile que Moshe Rabbeinu devait réaliser. Deuxième étape, et bien Israël, deuxième phase de la Géoula, ils ont arrêté de travailler chez Paro en Égypte. En effet, parce que bien souvent, les conditions qu'on est en train de vivre, eh bien, vont nous occasionner un certain exil, un certain esclavage. Alors, il faut arrêter cet esclavage. Troisième étape, il fallait que l'Israël sorte d'Égypte. Pourquoi ? Parce qu'en effet, le contexte, le lieu dans lequel on habite, on demeure, eh bien, des fois, nous prête aussi à un certain esclavage, une certaine asservitude. Quatrième phase, eh bien, c'est recevoir la Torah. Parce qu'en effet, c'est uniquement lorsqu'une personne va fusionner avec la Torah qu'il va en effet retrouver sa réelle identité. Puisqu'en effet, n'est-ce pas, l'identité de la personne, sa neshama et la Torah viennent de la même source céleste. Alors c'est uniquement lorsqu'on va fusionner avec cette Torah, lorsqu'on va la recevoir, l'accomplir, qu'on va s'identifier avec sa réelle identité. Top. Alors les Balaam Moussar disent qu'en parallèle, eh bien, une personne est bien souvent esclave de ses vices et de ses défauts, de ses problèmes. Des fois, une personne est habituée à faire une avéra, il a un défaut, il a de mauvaises habitudes, même si c'est permis par la Torah, mais il a une habitude mauvaise dont il essaye de se détacher et il n'arrive pas. Alors, bien souvent, on doit passer par ces quatre phases. Premièrement, expliquer à la personne, attention, tu as un vice, un défaut, c'est dangereux, fais attention, il faut se détacher de la avéra, il faut que tu laisses sa mauvaise habitude de côté. Il faut lui expliquer d'abord que c'est mauvais pour lui. Deuxièmement, il faut qu'il l'arrête. Comme les Israël ont arrêté les travaux forcés. Il faut aussi, n'est-ce pas, se libérer de ce vice, de ce défaut. Troisième phase, il faut des fois changer d'endroit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre en face de la avéra. Il ne faut pas être en face d'une épreuve insurmontable. C'est-à-dire qu'il faut ne pas que les conditions extérieures soient les meilleures, les plus parfaites, pour que tu puisses éviter la avéra. Alors c'est pour ça qu'il faut aussi dans ce domaine-là, il faut aussi être le maximum au Beth Midrash et Beth Knesset, parce qu'en effet, c'est là où on peut éviter la vera. C'est-à-dire que lorsque le contexte extérieur se prête à la mitzvah, va t'aider à te détacher de la vera, c'est là en effet où tu pourras l'éviter. Et quatrième phase, c'est recevoir la Torah et l'accomplir, parce que c'est uniquement lorsqu'on va fusionner avec cette Torah qu'on pourra s'identifier avec elle et se réaliser réellement. Donc, alors c'est pareil aussi, lorsque, n'est-ce pas, lorsque une personne, eh bien, sent qu'il est en exil, lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à se réaliser, lorsqu'on sent qu'on n'arrive pas à exprimer ce qu'on est réellement, des fois, on sent qu'on a un potentiel extraordinaire dans le domaine de la Torah, dans le domaine d'une autre matière, dans le domaine de notre caractère, dans le domaine familial, dans le domaine du travail, dans n'importe quelle chose qu'on réalise dans la vie, eh bien, bien souvent, on sent qu'on est en exil, qu'on n'arrive pas à se réaliser. Eh bien, là aussi, n'est-ce pas, il faut vérifier ces quatre phases. C'est-à-dire, premièrement, bon, des fois, on est conscient, mais des fois, on est inconscient de cet exil. Alors, d'abord, parce que des fois, on a l'impression qu'on est coincé, mais on ne sait même pas pourquoi. On sent qu'on est inhibé, mais on ne sait même pas ce qui nous dérange. Alors, d'abord, n'est-ce pas, prendre conscience de notre problème, de notre esclavage, de notre exil, de notre avéra, de notre vice et défaut. L'inconscience, c'est encore pire. Comme quelqu'un, n'est-ce pas, qui est en train de se droguer, sans se rendre compte que ça lui apporte préjudice. C'est encore plus grave. Quelqu'un qui mange un aliment, il est persuadé que c'est pour la santé, alors que c'est un aliment qui est nocif. Quelqu'un qui ingère un poison, alors qu'il pense que c'est bon pour la santé. Alors, être inconscient de la gravité de la chose, c'est la pire des choses. Donc la première phase à savoir, c'est en effet qu'on est en exil. Se rendre compte, c'est-à-dire réfléchir, faire un bilan. Est-ce que réellement j'arrive à me réaliser? Est-ce que je m'épanouis dans ce que je fais, dans ce que je vis? Est-ce que j'arrive à m'identifier avec ma réelle personnalité, avec ma réelle identité, ou alors je suis en exil? Alors entre parenthèses, bien souvent, une des raisons et des causes de cet exil, c'est lorsqu'on est un peu trop tiraillé à droite et à gauche. Lorsqu'on est un peu déchiré par 36 désirs, 36 envies, des fois lorsque les médias nous brouillent un peu l'esprit, lorsque la vie quotidienne, la course, n'est-ce pas, le train-train quotidien, nous brouille l'esprit, et on est attiré par 36 envies, 36 désirs, on ne sait même plus ce qu'on veut réellement, eh bien ça peut aussi créer un exil en soi. Parce que c'est comme si on est à côté de sa réelle identité. On est exilé par rapport à soi-même. Alors, il faut pour cela marquer un temps d'arrêt pour faire un bilan, pour vérifier est-ce qu'on est dans la bonne direction ou alors où est-ce qu'on est à côté. Est-ce qu'on voyage dans le bon sens ou alors dans le sens contraire. Lorsqu'on fait un bilan, eh bien, on peut facilement s'en rendre compte. Une fois qu'on voit ce qui va, ce qui ne va pas, là on peut, n'est-ce pas, ensuite réaliser la progression et l'amélioration de ce qu'on veut arriver. Donc première phase, c'est prendre conscience de notre exil, dans quel domaine il se situe, qu'est-ce qui nous dérange dans la vie et qu'est-ce qu'on peut améliorer. Deuxième phase, eh bien en effet, il faut arrêter. C'est-à-dire que si on a une avéra qui nous dérange, une mauvaise habitude, il faut l'arrêter dans l'action. Alors ça commence par l'action. On doit commencer par arrêter la mauvaise action, ça peut être aussi la parole, mauvaise parole, et ça peut être aussi la pensée. Il faut réaliser un travail en soi pour en effet se libérer de cet exil, et bien de transformer nos actions, nos paroles et nos pensées. Ça, c'est la seconde phase.
Comment réussir à transformer
les pensées? Les pensées, comment réussir à les transformer? En effet, alors la maîtrise de la pensée, c'est une des choses les plus difficiles à réaliser. Et encore une fois, pour cause, parce qu'en effet, de nos jours, eh bien, notre pensée est assaillie de façon massive par les médias qui nous brouillent l'esprit, par les slogans publicitaires qui nous dérangent et qui sont en fait, n'est-ce pas, en train de diriger nos pensées. Comme avait dit une fois un grand penseur, c'est que le monde de la démocratie a permis à l'homme de faire ce qu'il voulait, mais de la dictée que vouloir. On te dit fais ce que tu veux, mais ce que tu veux, eh bien, c'est ce que tu vois, c'est ce que tu entends dans les médias du matin au soir. Et c'est pourquoi, en effet, c'est plus difficile de nos jours de maîtriser notre pensée. Mais concrètement, comment réaliser cela? Eh bien, il y a plusieurs conseils. Premièrement, alors, il faut tout d'abord, par aussi, comme lorsqu'on doit arrêter l'avare dans l'action, eh bien, on doit aussi arrêter d'être assailli par des mauvaises pensées. On doit arrêter, n'est-ce pas, de laisser sa pensée être tiraillée à la merci, n'est-ce pas, des médias et des images et des ondes sonores qu'on entend et qu'on voit à droite et à gauche. Parce qu'en effet, c'est ce qui va nous tirailler l'esprit, la pensée, le sentiment. C'est-à-dire que la pensée, on doit a priori décider, programmer notre pensée. Je sors dehors, je fais un voyage, je dois décider, eh bien, je vais penser à ci, à cela. Je ne vais pas laisser mes pensées vagabonder au gré du vent, au gré du temps, par rapport à ce que je vais voir et entendre, mais je vais décider de penser uniquement à cela pendant un quart d'heure, une demi-heure, trois heures, quatre heures, le temps de mon voyage. Bon, c'est pas toujours facile, il faut des fois s'entraider avec des livres, ou alors des disques ou des cassettes. Bon, maintenant, à part cela, il y a aussi, deuxième conseil, eh bien, il y a aussi un travail de maîtrise de la pensée à réaliser. C'est-à-dire qu'en général, eh bien, notre pensée, elle est devenue plus ou moins passive. Encore une fois, parce qu'on s'est tellement habitué à être passif en face d'images et en entendant certains sons. Alors qu'a priori, une personne devrait réaliser en soi cette créativité, cette dynamique de programmer sa pensée. Parce que la pensée, c'est une faculté qu'Hachem nous a donnée. On doit en effet l'exploiter en la dirigeant, en la programmant a priori. Alors là aussi, on peut s'initier petit à petit à programmer sa pensée. C'est-à-dire, je peux faire un travail, eh bien, je me concentre pendant 30 secondes, pendant 2-3 minutes, sur un texte, sur une image, sur une idée. Et je vais faire un effort de penser uniquement à cela. Parce qu'on fait tous les jours 30 secondes, 1, 2, 3, 5, 10 minutes, ce n'est pas toujours évident, mais petit à petit, on va habituer à maîtriser la pensée. Alors, troisième élément à savoir, c'est que on bénéficie d'une grande aide divine, lorsque on va, d'une part, beaucoup prier là-dessus. C'est-à-dire, il faut beaucoup de tefila pour être aidé par Hachem pour purifier la pensée et pour maîtriser la pensée. Parce qu'en effet, c'est un monde à conquérir, à maîtriser. Et pour y arriver, on doit absolument faire appel à la tefila. Quatrième conseil, et bien chaque fois, n'est-ce pas, qu'on va étudier un texte de Torah ou alors être affairé à une mitzvah, ou une tefila, eh bien automatiquement la pensée va être purifiée, sanctifiée par cette mitzvah, cette Torah, cette fila en question. Et cinquièmement, il y a aussi encore une autre aide divine, de façon différente, c'est que bien souvent, on sent qu'on est dérangé par des mauvaises pensées, spécifiquement dans la Torah et la tfila. Ça arrive très souvent, surtout dans la tfila, surtout dans Kriyat Shema et l'Amida, c'est là où on a les meilleures astuces, meilleures pensées, ou alors des mauvaises pensées. Alors, en effet, alors à cela, n'est-ce pas, il y a un mamar très intéressant à voir de Rabbi Tzedek HaKohen dans Tzitkat HaTzadik. Il dit la chose suivante. Il dit que lorsqu'une personne est perturbée dans la tefila par de mauvaises pensées, eh bien, il ne faut pas être déprimé et dérangé par cela. Il dit au contraire, c'est un bon signe. Pourquoi? Parce que lorsqu'on a réalisé le tikkun de la avera, lorsqu'on a lâché une avera dans l'action, alors on a fait tchoua par rapport à cette avera. Impeccable. Mais encore une fois, on a fait la tchoua par rapport à l'action de la avera, mais la pensée de la faute n'a pas encore été réparée. Et ça, il y a encore un manque de perfection par rapport à la tchouva, par rapport à telle avera. Et c'est pourquoi spécifiquement, lorsqu'on est dans la tfila, lorsqu'on est en élévation spirituelle, eh bien, ces mauvaises pensées qui ont besoin d'un tikkun, qui ont besoin, n'est-ce pas, qu'on les efface, qu'on leur fasse tchouva, elles viennent dans la tfila nous supplier, nous demander qu'on leur fasse le tikkun. C'est-à-dire que les mauvaises pensées dans la tfila, c'est un bon signe que notre tchouva est accepté au ciel. Et Hachem veut nous aider à faire tchouva. Et c'est pourquoi il veut nous aider à réaliser la tchouva dans sa perfection. Et donc ces mauvaises pensées viennent dans la tfila pour nous demander de leur réaliser un tikkun, une réparation. Et comment est-ce que ce tikkun se réalise? Précisément lorsqu'on ne va pas y penser, lorsqu'on ne va pas laisser notre pensée déraper, vagabonder vers ces pensées interdites et mauvaises, mais lorsqu'on va braquer, concentrer sa concentration sur la tfila et la Torah. Et là, on va comme donner un siège différent, un siège de réflexion, de méditation différent à ces pensées mauvaises, ce qui va leur donner, n'est-ce pas, leur tikkun dans le domaine spirituel. Donc, on voit un autre sujet. Alors, on avait dit, n'est-ce pas, qu'on a plusieurs phases dans la Géoula, lorsqu'une personne est en exil, comment, n'est-ce pas, se libérer. Alors, donc, première phase, être conscient de son exil. Seconde phase, eh bien, en effet, arrêter d'être exilé par rapport à la vera, à la mauvaise habitude. Alors, donc, dans l'action, la parole et la pensée. Troisième phase, quand les Israéliens ont dû sortir d'Égypte, eh bien, là aussi, il faut changer de contexte de décor. C'est-à-dire, lorsqu'on habite dans un endroit qui nous prête à la faute, ou alors si on côtoie quelqu'un qui nous prête, n'est-ce pas, à vraiment à exprimer ses vices et ses défauts de façon flagrante. Alors, en effet, n'est-ce pas, des fois, il peut être conseillé, eh bien, de changer d'endroit, de changer de décor. Alors, ce n'est pas toujours évident dans les, de point de vue technique et concret, mais cependant, n'est-ce pas, ça peut se réaliser même quelques heures par jour. C'est-à-dire que lorsqu'on va, pendant un certain temps, de façon quotidienne, eh bien, nous mettre dans des conditions qui vont nous éviter la faute, ou qui vont nous éviter, n'est-ce pas, d'exprimer notre vice et notre défaut, lorsqu'on va se barricader, entre guillemets, dans un bêta-midrash, dans une salle d'études ou une synagogue, eh bien là, n'est-ce pas, on peut être à l'abri de ses vices, de ses défauts, de sa vérote, et c'est là aussi on peut réaliser la libération de tel exil. Quatrième et dernière phase, eh bien, c'est recevoir la Torah, parce qu'en effet, sans la Torah, on ne peut rien faire. Il faut absolument fusionner avec la mitzvah, la Torah, la tfila, pour en effet retrouver cette geoula, cette libération. Alors encore une fois, pourquoi cela? Parce qu'en effet, notre neshama ainsi que la Torah, eh bien, elles viennent d'un monde qui est commun, d'une source commune dans les mondes célestes. Et lorsqu'une personne va retrouver cette Torah, va fusionner avec cette Torah, c'est là où elle va s'identifier avec elle-même. C'est là où elle va réellement se réaliser. Top. Alors, ça ne passait pour expliquer qu'est-ce que c'est l'exil de l'être humain et comment réaliser à cette Géoula personnelle cette libération de sa personnalité. Alors, lorsqu'on s'approche des 3 semaines de Ben Hametzarim, alors, il faut se rappeler qu'en fait, eh bien, il s'agit ici de Géoulat à Klal et Géoulat à Prat. C'est-à-dire qu'ici, on est en train de réaliser non seulement la libération de Am Israël en tant que peuple, mais aussi en tant qu'individu. C'est-à-dire, en fait, c'est très lié. Parce qu'en effet, lorsqu'on arrive vraiment à réaliser en soi cette Géoula, lorsqu'une personne arrive à se libérer de tous ses exils, de ses vices, de ses instincts, etc., eh bien, c'est là où il pourra être nig'al, être libéré, il pourra amener l'ashrat ashrina sur lui, la présence divine sur l'homme. Parce qu'en effet, Hachem, il est prêt, il veut a priori résider, demeurer parmi nous. Donc, betor kol echad ve'echad, ve'shachamti betocham, Hachem veut résider parmi chacun d'entre nous, ainsi que dans le sein de Am Israël, dans le Beth Amikdash. Alors en fait, c'est lié l'un à l'autre. Lorsqu'une personne va se sanctifier, lorsqu'un homme va se libérer de ce qui le dérange, va permettre à Hachem de demeurer dans son cœur et son esprit, eh bien, il est en train de bâtir, encore une fois, le Beth Amikdash. Parce qu'en effet, c'est lorsque Hachem peut demeurer parmi chacun d'entre nous, qu'il va demeurer, n'est-ce pas, au sein du Beth Amikdash. Alors, lorsqu'on est en train, pas de demander Beth Amikdash, ben, il faut le demander en tant que Géoulat à Klal et Géoulat à Prat. Il faut penser à soi et penser au Beth Amikdash. C'est-à-dire que lorsqu'on va se libérer de ses mauvaises actions et pensées, lorsqu'on va sortir de cet exil, eh bien, on va permettre à Hachem de se rapprocher de nous. On va se rapprocher d'Hachem. Et lorsqu'Hachem demeure parmi nous, eh bien, c'est là aussi qu'il peut demeurer dans le Beth Amikdash. Beth Amikdash, n'est-ce pas, Milashon Kedusha. Parce qu'en effet, eh bien, il y a une Kedusha intrinsèque à chacun d'entre nous. Et le verset nous dit, Kedoshim Tiu ki Kadosh Ani. Vous voudrez vous sanctifier parce que moi aussi, je suis Kadosh. Alors, nous dit le Midrash, Yachol Kamoni, Talmud Lomar ki Kadosh Ani. Alors, d'après le Pshat, ça voudrait dire, est-ce qu'on peut vraiment se rapprocher de la Kedusha d'Hachem? Non, on ne peut pas y arriver, parce que Kadoshani, parce qu'en effet, Hachem est bien plus Kadosh que nous. Mais il y a un drash qui dit le contraire, Yachol Kamoni, comment est-ce qu'on pourra se rapprocher de la Kedusha d'Hachem? Talmud Lomar, Tilmad Lomar, Kadoshani. Il faut s'habituer à dire, Kadoshani, je suis Kadosh. Comment se rapprocher de cette Kedusha d'Hachem en se répétant, je suis Kadosh, je suis sanctifié. C'est-à-dire que lorsque tu te rappelles qu'Hachem, il peut demeurer dans ton cœur et ton esprit. Hachem, il veut se rapprocher de toi. Et tu te répètes, Kadoshani. Hachem m'a créé de prime abord avec une Neshama qui est Kedosha, une âme qui est sainte, qui est sanctifiée. Eh bien, quand tu vas le répéter, alors, mis à part que ça peut nous aider à éviter la Vera, mais ça va nous aider à prendre conscience qu'en fait, on est proche d'Hachem de prime abord, et Hachem peut résider et veut résider parmi nous. Et lorsqu'on fait cela, et bien automatiquement, on est en train de bâtir, encore une fois, une des briques du Beth Amikdash. Alors en fait, lorsque Hachem nous a exilés, et lui-même il a été exilé, alors en fait, c'est lié intimement par le fait que chacun d'entre nous est en exil. C'est-à-dire que lorsqu'une personne est en exil, il n'arrive pas à se réaliser, il n'arrive pas à exprimer ce qu'il est, il n'arrive pas aussi à exploiter le potentiel maximal qu'il a en Torah, dans le domaine spirituel, moral et intellectuel. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a ici une perte considérable. Et donc, lorsque on demande qu'Hachem bâtisse le Beth Amikdash, eh bien, c'est aussi lié au fait que nous, on soit en exil. C'est-à-dire qu'en fait, on peut prendre conscience que ce qu'on a perdu, c'est pas uniquement par rapport à ce qu'il y a un Beth Amikdash qui manque, mais aussi par rapport à ce que nous-mêmes, on est en exil, on est exilé. C'est-à-dire qu'une personne pourra en effet réaliser le maximum de ce qu'elle est uniquement lorsque le temple sera construit. Et d'ailleurs, il y a un Rashi qui dit en Megillah Yud Zayin, nous dit Rashi que Goel Israël Abracha dans l'Amida, on parle de Geoulat Aklal et Geoulat Aprat. On parle aussi pas de la Geoula personnelle de chacun d'entre nous par rapport à ses problèmes personnels et individuels. Donc en fait, lorsqu'on a été exilé, eh bien, Hachem a aussi exilé chacun d'entre nous. Chacun, n'est-ce pas, en fait, a perdu sa réelle identité et passe à côté de l'expression maximale de ce qu'elle est. Et lorsqu'on demande le Beth Amikdash, on doit aussi penser à cela. Parce qu'en effet, on peut arriver au maximum de ses capacités uniquement lorsque le Beth Amikdash sera construit. Et sachez que, dit le Chafetz Chaim à Machal, que lorsqu'on demande, lorsqu'on parle à Hachem, de nos petits problèmes et on oublie Beth Amikdash. Alors pourquoi est-ce que on est en train de perdre beaucoup? Pourquoi? C'est comme, n'est-ce pas, un prince qui a été renvoyé par le roi son père dans la forêt parce qu'il a fait des choses graves. Alors le roi, n'est-ce pas, l'a renvoyé. Après quelques mois, le roi voulait le ramener au palais royal. Il a envoyé des princes voir, il a envoyé quelques ministres vérifier qu'est-ce que le prince faisait et qu'est-ce qu'il avait, de quoi il avait besoin. Et le prince a dit au ministre, oui, dites à mon père que j'ai besoin de quelques braises et quelques charbons. Parce qu'en effet, ce prince-là, il a déjà tout oublié, le palais royal, et ce qu'on disait déjà comme un paysan, il fallait juste un peu de charbon. Et lorsqu'on demande à Hachem, Hachem, donne-moi, n'est-ce pas, un peu de santé, un peu de finances, etc., eh bien, c'est, on fait comme cet homme-là, qui au lieu de demander le palais royal, il demande à Hachem du charbon. C'est-à-dire que, au lieu de demander la Geoula, Beth Amikdash et le Mashiach, on demande à Hachem, Hachem, je t'en prie, donne-moi un peu de braise, un peu de charbon, un peu de bois, c'est ce qu'il me faut, n'est-ce pas, pour faire mon méchoui et c'est terminé. Et c'est bien dommage, parce qu'en effet, on pourrait demander à Hachem le palais royal. Alors bon, on pourrait dire c'est que, parce que quand je demande du charbon, alors il y a des chances que je le reçoive. Alors que le palais royal, je sais que je ne vais pas l'amener. Top. En effet, c'est une grande question. Il faudra en parler longuement. Mais en bref, on doit renforcer la Emouna qu'en fait, notre philote ne sont jamais perdus. Et lorsqu'on demande à Hachem le Beth Amikdash, le palais royal, eh bien on est en train de bâtir une bride spirituelle du Beth Amikdash qu'on verra lorsqu'il sera construit. Alors on bâtit cette brique au ciel, mais on bâtit aussi cette brique dans notre cœur. C'est-à-dire que lorsque la Géoula va arriver, eh bien la question est-ce qu'on va être acteur ou spectateur? Est-ce que tu vas participer à la Géoula ou est-ce que tu seras à l'extérieur? Ça va dépendre de toi. Est-ce que tu as demandé ce Beth Amikdash ou pas? Est-ce que c'était important ou pas? Est-ce que la Géoula, le Mashiach, te tenait à cœur? Ou alors bon, évidemment, c'est un effet secondaire, n'est-ce pas? C'est secondaire, c'est en dernière priorité. Ça dépend de tes tefilotes, qu'est-ce qui t'est important? Est-ce que tu vas participer ou pas à cette Géoula? Deuxièmement, c'est qu'en fait, lorsqu'on demande cette Géoula, alors Hachem, automatiquement, il nous donne ce charbon et ces braises. C'est-à-dire que ce qui nous manque dans la vie quotidienne, lorsqu'on est intéressé par Malchut Hachem, automatiquement, Hachem nous le donne, même de façon gratuite. Comme par exemple, quelqu'un qui va dans un hôtel, alors, bon, il demande, pas il demande, un verre de coca, et après, bon, il demande la note, et bien un verre de coca, tu payes combien là-bas? 5 euros. 5 euros, comment? Je vais au kiosque du coin, je le paye là-bas 1 euro, évidemment, mais là, ici, il y a 5 étoiles, il y a ici un fauteuil, un canapé, tu as ici des tapis, tu vois, ici, ce n'est pas la musique qui te joue. Tu dois payer parce que c'est plus cher. Tu payes en effet le décor extérieur. C'est-à-dire que ce monde-là, c'est un hôtel 5 étoiles. Il faut le payer. Il faut le payer, évidemment. Mais tu le payes uniquement lorsque tu es un étranger par rapport à l'hôtel. Si quelqu'un fait un voyage, il vient, n'est-ce pas, du Canada, il va en Suisse, mais il représente une grande boîte, une grande société. Il vient pendant une semaine dans l'hôtel 5 étoiles. Il est nourri, logé. À la fin de la semaine, il ne paye pas un rond. Pourquoi? C'est sur le compte de la boîte en question. Par aussi, lorsqu'on vient sur Terre, si on est sur Terre que pour son propre égoïsme, que pour son propre plaisir personnel, alors tout ce que tu dois, tout ce que tu vas déguster et prendre et goûter ici, tu dois le payer parce que tu es un étranger par rapport à la société en question. Mais quand tu es sur Terre, pour Hachem, tu es ici pour véhiculer la Torah et les mitzvot. Tu es en train de représenter la Torah et Hachem. Alors tu peux prendre tout ce que tu veux de ce monde-là, tu ne perds rien du tout. Pourquoi? Parce que Hachem te donne, n'est-ce pas, tout ce dont tu as besoin pour véhiculer cette Torah dans le monde. Donc, lorsqu'une personne demande le palais royal, demande le Mashiach et la Géoula, automatiquement Hachem lui donne, pas même le charbon, toutes les finances et la santé, même sans qu'il le demande. Évidemment, n'est-ce pas, il le donne selon ce qui est nécessaire. Là aussi, c'est un sujet à part. C'est-à-dire qu'en fait, on ne perd rien lorsqu'on demande la Géoula du fond du cœur. On ne perd rien. Au contraire, on a tout à gagner. On a tout à gagner par rapport à la Géoula réellement, par rapport à ce qu'on est en train de bâtir des briques célestes dans ce temple spirituel, par rapport à ce qu'on est en train de bâtir ces briques dans notre réelle identité, et par rapport aussi à ce que Hachem réellement nous donnera tout ce dont on a besoin. Et il faut aussi renforcer en soi qu'on ne peut pas imaginer, on en parlera un peu plus tard, tout ce qu'on avait et tout ce qu'on peut recevoir lorsque le Beth Amikdash sera construit. Et surtout, n'est-ce pas, par rapport à cet exil et par rapport à cette Géoula. Parce que réellement, depuis que le Beth Amikdash est détruit, lorsqu'Hachem a quitté cette demeure, eh bien, aussi, n'est-ce pas, on s'est écarté d'Hachem. Et donc, automatiquement, on est un peu à côté de notre réelle identité. Alors, on ne demande pas un travail gigantesque, parce qu'en effet, c'est une histoire qui s'est passée il y a presque 2000 ans. Et on ne sait pas assez ce qui s'est passé. On n'est pas assez conscient, en effet, c'est pour ça que c'est un peu difficile. Alors, on nous demande deux choses précises. Premièrement, de nous renforcer dans la tefila, de se concentrer dans la tefila. Lorsque, plus d'une centaine de fois par jour, on relate la Géoula et le Mashiach, etc., d'y penser une seconde à l'avant, de marquer un temps d'arrêt et de penser à ce qu'on dit et de le demander de fond du cœur. Et deuxièmement, pendant ces trois semaines, de s'intéresser à des textes qui parlent du Mashiach, du Beth Amikdash et de la Géoula. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de se lamenter au passé dans la tristesse, mais au contraire, de renforcer la Emouna qu'on est en train de bâtir. C'est pendant ces 22 jours qu'on est en train, n'est-ce pas, de bâtir, de reconstruire ce Beth Amikdash qu'on attend et qu'Hachem nous amène de Karov. Amen.